Oui, ça fait un moment qu'on se connaît, John et moi, depuis des années, grâce à l'église Grace Community Church à Los Angeles. Et je suis vraiment heureux d'être là parmi vous ce matin. Avant d'aborder le texte de ce matin, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi, un petit exercice. Prenez un bout de papier. Un stylo pour écrire dessus. Rapidement, je pense que nous avons tous joué au jeu où on associe un mot avec un autre mot dit par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Qui vient à l'esprit. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner un mot et ensuite, vous allez mettre sur votre papier le premier mot qui vous vient à l'esprit. Y a une règle à suivre. Seulement une règle à suivre. Ne réfléchissez pas plus d'une seconde. Mettez le pensée qui vous vient à l'esprit dès que j'énonce le mot. C'est la règle. Je ne veux pas que vous mettiez plus de mots. C'est tout. Ne vous souciez pas d'avoir une réponse tordue. Ce n'est pas la peine de réfléchir trop à ça. J'aimerais comparer vos réponses à celles des autres groupes auxquels j'ai posé la même question. C'est intéressant de voir à la fin un peu comment on se compare aux autres. En fait, c'est une sorte de petit sondage. Vous êtes prêts? Le mot Dieu. Dieu. Ce qui arrive à l'esprit, c'est ce que vous devez écrire. Le mot Dieu. C'est quoi qui arrive en tête? Je vais revenir à cela plus tard dans le message. Ce matin, on va aborder un texte de la Bible qui est assez connu parmi nous, mais j'espère pouvoir dévoiler, éclairer ce qui semble être évident. Ouvrons ensemble nos Bibles à la lettre aux Philippiens, s'il vous plaît. La phrase qu'on va essayer de décortiquer, c'est la phrase « Vivre l'Évangile, c'est le service ». Vivre l'Évangile, c'est le service. À quoi pensez-vous lorsque j'aborde le sujet du service? Pensez-vous de suite au service rendu à l'Église, à la famille, à la communauté en sens large du terme? Peut-être une autre question pourrait être jusqu'à quel point devrais-je servir les autres? Nous lisons dans l'évangile de Marc, le chapitre 10, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Si je ne sais pas si c'est le cas pour vous ici, mais quand je lis un texte comme cela, il me semble que la barre est placée trop haut pour moi à atteindre et que ce n'est pas faisable pour moi qui sommes des êtres humains, des êtres qui sont égoïstes par nature. Comment faire être esclave? Être serviteur. Sommes-nous reconnus autour de nous comme esclaves? Sommes-nous conscients de ce que cela veut dire être serviteur? Est-ce que les autres vous considèrent, nous considèrent comme serviteurs, comme esclaves? Ensuite, lisons la lettre aux Romains au chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de la faire grandir dans la foi. Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. En plus de la prise de conscience de notre incapacité à faire ce qui nous est demandé, il nous faut aussi prendre Jésus-Christ comme modèle à suivre. C'est ça ce que Paul dit à nous. Ainsi, au lieu de seulement nous sentir coupables de ne pas servir comme nous le devrions, nous sentons aussi comme une sorte de défaillance, comme s'il manquait quelque chose dans notre démarche avec le Seigneur, comme si ce qu'il a fait ne nous motive pas assez ou pas autant que cela devrait le faire. Du moins, c'est là l'impression que nous avons de la situation. On veut servir, mais à quel niveau? C'est la question pour ce matin. Vivre l'Évangile, c'est quoi? Le service. Ce qui est triste parmi nous, c'est qu'après s'être rendu compte que nous ne pouvons pas vivre ce que l'Écriture nous demande de faire, nous tombons dans le piège de la comparaison à autrui. Nous ne cessons pas de nous comparer les uns aux autres. Par exemple, quand je me compare à un petit enfant et à son incapacité de penser comme un adulte, je me sens assez bien, n'est-ce pas? Mais quand je suis assis dans une salle de conférence avec un professeur de théologie ou ailleurs face à quelqu'un d'haut placé, je me sens comme le petit enfant. Par conséquent, j'ai l'habitude de me mettre là où je n'ai pas à traiter avec l'un ou trop avec l'autre. De me sentir bien, ce n'est pas le but pour nous? La question est la suivante. Est-ce que c'est même juste ou raisonnable de réfléchir comme ça? Je ne crois pas. Ce n'est pas biblique. Je prie pour que cette étude nous mène à la vérité et que nous soyons pleinement éclairés de façon à pouvoir servir Dieu d'une façon honorable. Que le Seigneur ouvre nos cœurs dans ce sens. Prions avant que j'avance un peu plus. Ô Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Paul prie en Éphésiens que nos cœurs, les yeux de nos cœurs soient ouverts pour qu'on puisse voir l'espérance qui est en toi, l'espérance qui est réelle, qui est à jamais. Ô Seigneur, aide-nous ce matin à voir qu'à travers ta parole, on peut vraiment être différent, qu'on peut partir avec un encouragement que tu es au milieu. Aide-nous à être sensibles à ton esprit ce matin. Que l'épée de la parole nous touche profondément. Ô Seigneur, on est là devant ta face parce que c'est toi et toi seul qui peux le faire. En ton nom et pour ta gloire. Amen. D'abord, je voudrais arriver à la signification du mot de service. C'est quoi le service au sens biblique? C'est quoi le service au sens biblique? Puis je donnerai quelques exemples qui vont appuyer mon propos. Je crois que nous allons voir assez rapidement que les normes de service que nous avons mises en place pour nous-mêmes, parmi nous, les questions qu'on a abordées tout à l'heure, ne sont pas celles qui nous sont réellement demandées, selon la Bible. Les versets que nous avons lus tout à l'heure ne sont que la pointe de l'iceberg. C'est ça, c'est seulement un petit morceau de ce que la Bible nous demande à faire. En fait, je prie pour que nous nous sentions désespérés, inadéquats et profondément à le besoin, dans le besoin ce matin. Parce que c'est ça qui va nous amener à la solution à la fin du message. Ensuite, à la fin du message, j'espère nous faire sortir de la profondeur de désespoir avec le moyen que Paul offre nous pour nous aider à faire face aux défis de vrai service biblique. C'est ça le but, n'est-ce pas? De ne pas s'appuyer sur nous-mêmes, mais de voir comment Dieu, à travers sa parole, nous aide à voir autrement. Pour commencer, une chose doit être très clair parmi nous. Nous sommes tous des serviteurs des esclaves. Tous. Nous sommes tous au service de quelqu'un. Chacun d'entre nous n'est autonome. L'autonomie, au sens propre du terme, est un privilège qui n'appartient qu'à Dieu et à lui seul. Nous sommes tous soit au service de traitements cruels, maîtresses destructrices de nous-mêmes et de Satan, soit nous sommes au service de libération de maître d'amour Jésus-Christ. Dans le premier chapitre de la lettre aux Romains, nous lisons comment Paul se considérait lui-même comme un serviteur esclave de l'Évangile de Dieu. Il a estimé que le service rendu à la loi de liberté est plus léger que le service exigé par la chair. C'est ça la question ce matin. Est-ce qu'on est prêt à faire le démarche pour voir comment être esclave de la liberté ou va toujours rester dans l'esclavage de nous-mêmes, qui est le pire? Dans chapitre 6, 7 et 8 de Romains, nous donne une image claire de la différence entre la façon de vivre sous le maître de soi, la chair, et celle de l'Esprit de Dieu. C'est ça le choix ce matin pour nous. Comment vivre en tant qu'esclave? Parce qu'on est esclave de quelqu'un. En bref, nous sommes toujours sous l'autorité de ce quelqu'un. Chaque moment de nos vies, on prend des décisions qui sont liés avec l'autorité qui est en dessus. Nous-mêmes, qui est maître, qui est le plus pire, ou l'Esprit de Dieu, qui est la liberté. Commençons par le service tel qu'il est décrit dans cette lettre aux Philippiens. Nous allons sauter d'un texte à l'autre autour de ce livre en Philippiens, mais allons-y. La plupart d'entre nous, nous avons entendu dire que le thème du livre de Philippiens est quoi? La joie. C'est vrai, mais je crois qu'on va voir que c'est la joie qui est exprimée dans le cadre du service. C'est ça. C'est pas la joie pour se mettre à côté et dire « Ah, j'ai la joie ». C'est pas ça. C'est en servir les autres, servant les autres, qu'on ait la joie bibliquement. Démarrons au milieu de chapitre 2, le verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » En effet, c'est Dieu qui produit en nous, en vous, le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. » Il faut comprendre que ces versets sont dans un contexte des versets qui traitent l'objet de service, du service. Dans la première partie du chapitre, si on voit, Paul nous demande, donne le principe, il faut considérer les autres comme étant plus importants que nous-mêmes. Cela se fait avec l'objectif de l'unité, comme on le voit au verset 2 de ce chapitre 2. Juste après, Paul nous donne l'exemple par excellence du Christ et de ce qu'il a accompli en notre nom sur la croix. Nous allons revenir à cet exemple de Christ plus tard dans le message en examen plus approfondi. Dans le verset 17 et suivant, Paul nous donne trois exemples de service. Il parle de lui-même, il parle de Timothée et il parle d'Épaphrodite. Donc, nous pourrions déterminer que le service est ce dont il s'agit ici dans ce verset 12 à 16. Pour en revenir au verset 12, lisons que nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est le verset. J'affirme que Paul n'est pas seulement en train de nous donner les instructions générales pour débattre sur la relation entre nos responsabilités et celle de Dieu dans le salut. On y arrive souvent de faire ça, mais qu'il a spécifiquement à l'esprit le service. Comment travailler notre salut avec crainte et tremblement dans le service? C'est ça. Je dis cela en raison du contexte plus large, comme nous l'avons vu, mais aussi du contexte immédiat. Dans le verset 14, « Faites tout sans murmure et contestation. » Il me semble très bizarre que cette phrase soit dite comme un avertissement général. Au milieu de tout cela. En fait, c'est une instruction spécifique qui vise à lutter contre ce qui est naturel chez un serviteur, un esclave. Quoi ? La plainte. Les serviteurs ont tendance à se plaindre et à questionner ceux qui ont l'autorité sur eux, n'est-ce pas ? L'idiome qui dit « Vous savez que vous êtes un esclave lorsque vous êtes traité comme l'un d'eux » révèle aussi l'attitude qui est suivante en nous, n'est-ce pas? On est bien quand on est maître. Si quelqu'un nous traite comme serviteur esclave, c'est autre chose. Deux questions à vous poser ce matin. C'est quand la dernière fois où vous avez été traité comme un serviteur, un esclave, et où vous ne vous êtes pas plaint? Nous râlons toujours contre la façon d'agir des autres envers nous. Nous pensons toujours pouvoir faire mieux qu'eux, surtout ceux qui ont l'autorité, n'est-ce pas? C'est naturel pour nous de se plaindre. Quelle est notre attitude vis-à-vis ceux qui nous traitent comme serviteurs? Quand quelqu'un vous dit de faire quelque chose à l'église, c'est avec une attitude de joie, prêt à le faire sans question, ou est-ce que... Toujours encore. En revenant au texte, nous voyons que mettre en œuvre votre salut est lié à l'obéissance dans la première partie de verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi. Dans d'autres termes, un véritable service est synonyme d'obéissance au Christ. C'est ça. C'est ça le texte pour ce matin. Si on veut être serviteur, ce n'est pas un choix. On est des serviteurs, on est des esclaves. Et quant à Luc 17, Christ nous donne aussi une parabole pour décrire le rôle d'un serviteur. À partir du verset 7, dans ce chapitre, nous lisons « Si l'un de vous, un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, à juste tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers les sept esclaves parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est ça, l'esprit, l'attitude derrière un esclave, un serviteur de Dieu. La portée du message est claire, un serviteur n'a aucun droit sur sa propre personne. Il a un devoir. Jusqu'à présent, nous avons vu que le service n'est pas un choix personnel, mais c'est ce qui est exigé de nous. C'est ça, le service qui devait être pour nous, pour le Seigneur. Dès que nous sommes en Christ, le service n'est plus une option. C'est ça. Le service, c'est la vie. Être esclave, c'est la vie. On est esclave de Dieu. Point. On n'a pas un choix. Penchons-nous maintenant sur d'autres aspects du service biblique, car nous voulons continuer à élargir sa signification. Au chapitre 1 de Philippiens, voyons ensemble les versets 7 et 8. Paul écrit cette lettre qui est dans nos mains devant nous d'une prison et il pense aux autres plutôt que lui-même. Dans ces versets, il n'y a pas d'expression de pitié sur soi ni d'esprit de plainte. Le verset 8 montre qu'il aspire pour les autres avec la tendresse du Christ. Voici une autre photo du service biblique. Le serviteur, l'esclave, doit se préoccuper des autres d'abord, peu importe sa propre situation et parfois même aux dépens de son propre intérêt. Est-ce qu'on réfléchit comme ça quand on voit les personnes qui nous entourent? La barre est haute ici. Un peu plus loin, dans le verset 12, nous avons un autre aspect du service qui est démontré pour nous. Le service biblique a un but, a un objectif à atteindre. Le service que Paul a rendu avec ses conséquences, pour lui c'était l'emprisonnement, était fait dans un but précis. Pour lui, pour nous, par conséquent, l'objectif est l'avancement de l'Évangile. Dans le verset 16, le but est la défense de l'Évangile. Dans le verset 27, il est le progrès de la foi. Plus tard, nous allons voir l'exemple du Christ, mais comme un précurseur, nous voyons que le service rendu est un moyen de promouvoir les intérêts des autres. C'est ça, le service. On ne voit pas nous-mêmes dans tout cela, c'est l'autre qui est important. C'est ça le service, être esclave. En revenant au chapitre 2, au verset 17, nous allons continuer l'étude en voyant de plus près comment Paul décrit lui-même comme serviteur et esclave. Le service de Paul est décrit comme le sang coulé pour le sacrifice et le service de leur foi. Cette image vient de l'Ancien Testament. Il s'agit de la garniture hors d'un sacrifice animal. L'offreur versa du vin, soit devant, soit sur l'animal en feu, et le vin sera vaporisé, c'est ça? Cette vapeur symbolise la montée de l'offrande à la divinité pour qui le sacrifice a été fait. C'est ça, l'image que Paul nous donne. Paul a vu toute sa vie, comme une offrande de boisson. Et ici, il a été répandu pour le bénéfice des Philippiens. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici. Maintenant, nous avons une idée plus claire du sens de Romains 12, n'est-ce pas? Il nous parle d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nos offrandes se voient en rendant service aux autres. C'est ça, notre offrande qui plaît à Dieu. Il est intéressant de constater que Paul ne se considère pas ici comme le sacrifice principal. C'est ça qui est aussi important ici de savoir. Il est juste un arôme ajouté. Ce sont les autres qui ont fait le vrai sacrifice. Ils considèrent tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il a souffert, quelque chose à reconnaître, à pas à reconnaître, mais bien celui des autres. C'est ça le plus important dans ce passage. Il ne voit pas lui-même, il voit toujours les autres. Le véritable service biblique n'a pas à se promouvoir jamais, quel que soit le sacrifice fait. À ce stade, j'aimerais vous parler de la question du sacrifice de soi et de la question de la souffrance, parce que c'est un sujet assez important. C'est partout dans la Bible, mais je pense que parmi nous, moi surtout, c'est difficile de l'entourer d'une façon qui est claire. Est-ce que je souffre? Est-ce que vous souffrez? C'est quoi la souffrance pour nous? Belle salle, bon travail, belle famille, deux voitures, à Genève. C'est quoi la souffrance pour nous en ce moment? Revenons à la fin du chapitre 1, à partir du verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je viens vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer et rien par les adversaires. Pour ceux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, en Christ, mais encore de souffrir. De souffrir, c'est clair, n'est-ce pas? Mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Dans 2 Timothée 2, Paul demande à Timothée et d'une manière générale à nous tous de partager les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans Romains 8, il est présumé que nous allons souffrir avec Christ afin que nous puissions être glorifié avec lui. Juste après, Paul nous indique que la souffrance dans le temps présent n'est pas digne d'être comparée à la gloire qui doit nous être révélée à l'avenir. partout la souffrance. On devait être dans la souffrance. Mais c'est quoi ça? En d'autres termes, la souffrance est une sorte de donnée pour ceux qui suivent Jésus-Christ. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que je souffre? Et comment puis-je choisir de souffrir? Plus facile d'aller en Algérie, partager la parole sur la rue. Je vais souffrir. Est-ce que c'est le but ici? Dans notre passage dans Philippiens, Paul définit la souffrance comme en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Je ne pense pas que Paul nous demande à tous d'aller en prison pour l'Évangile. Même si actuellement certains sont dans cette situation à travers le monde. Okay? Je ne pense pas que c'est le but de ce texte, aller en prison. Ce n'est pas le but. Je voudrais suggérer que la souffrance en tant que serviteur, c'est aussi un appel à rentrer dans les souffrances des autres pour la cause de l'Évangile. C'est ça la souffrance qu'on choisit. Permettez-moi de vous expliquer. Si vous regardez la personne du Christ comme notre premier exemple, vous voyez que notre Sauveur a choisi de venir volontairement dans notre monde pour prendre sur lui nos fardeaux, pour vivre notre vie, pour sentir nos douleurs, pour subir la colère de Dieu à notre égard, pour souffrir nos souffrances, pour porter notre honte et pour prendre sur lui notre jugement pour nous sauver. C'est ça l'exemple de service. Paul, comme nous l'avons vu, a suivi les traces du Seigneur en rentrant dans la vie des autres et à prendre sur lui leur fardeau pour la cause de l'Évangile. Comme il est dit aux Thessaloniciens, il n'a pas seulement donné la parole, mais quoi? Sa vie. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ici, dans la salle? Parce qu'on peut parler, on peut réciter, on peut dire n'importe quoi presque. Mais comment est-ce que ça va nous changer, nous ici, dans la salle? Un exemple, petit exemple. Voyons-nous souffrir quelqu'un dans son mariage en raison des mauvais choix, par exemple. Quelle est notre réaction? Je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons peut-être sympathiser et même prier pour eux. C'est normal, non, je prie pour vous, je prie pour vous. Mais sommes-nous prêts à nous engager à intervenir et appliquer les vérités de l'Évangile en portant leur fardeau avec eux, en criant à leur côté? La plupart d'entre nous pensent que nous n'avons pas le temps, que nous ne sommes pas experts en matière. Nous hésitons à nous impliquer plus qu'il ne faut. En fait, le plus souvent, nous ne voulons pas sortir de notre petit monde égocentrique, confortable, on est à l'aise. Parce que c'est ça, l'appel de serviteur esclave, être à l'aise. Je pense que nous préférons attendre que le problème se disparaisse avant que nous réengageons avec eux. Ah, c'est à eux. Il y a un pasteur, hein. Des anciens, il peut s'occuper d'eux. Non, moi? Non, pas moi. Hein. C'est souvent le cas pour moi. C'est pourquoi ce passage m'interroge si profondément. Parce que je vois à travers la parole de Dieu que la barre est haute. On est appelé de vivre autrement. C'est ça qui attire le monde à nous. Parce qu'on est là pour l'autre, pas pour nous-mêmes. Mais en vérité, notre choix devrait être de souffrir avec eux. Le choix de rentrer dans leur souffrance. De vivre concrètement ces moments difficiles avec eux. De nous mettre dans leurs chaussures. Et de marcher avec eux en nous appliquant totalement pour leur être de vrais témoins de la bonne nouvelle de l'espérance qui est en Christ et qui est l'Évangile. C'est ça, choisir de souffrir. Ce n'est pas de parler en espérant que quelqu'un va nous faire aller aux prisons. Ce n'est pas ça la souffrance réelle, quotidienne. Jusqu'à présent, nous avons vu que d'être un serviteur est un non-choix. Car nous servons toujours quelqu'un, le choix est quel maître suivre. C'est ça la question. Quel maître suivre? Si vous êtes croyant, vous êtes appelé à obéir à votre maître Jésus-Christ. Point. Aucune question. Cela fait partie de votre nouvelle identité. Vous êtes racheté pour être esclave de Dieu. Point. Nous avons également décrit un serviteur biblique comme quelqu'un qui se sacrifie. Il a aussi des objectifs qui correspondent avec le maître. Et ensuite, qualité de serviteur, la souffrance n'est pas quelque chose de nécessaire, nous n'avons pas à la chercher, mais c'est quelque chose que nous devons choisir en faisant le pas de rentrer dans la souffrance des autres. C'est un choix. Nous pouvons souffrir en rentrant dans les souffrances des autres. Autour de vous, est-ce que vous voyez des personnes dans la souffrance? Pas forcément seulement ici, mais autour de vous, dans la rue, au travail. C'est où l'Évangile est le plus puissant. Quand on rentre dans leur souffrance et on est la lumière au milieu de la souffrance, on a une espérance réelle, profonde, mais on a peur de rentrer dedans parce que c'est un peu. On a peur. On ne veut pas y aller. Paul nous donne 4 exemples dans le deuxième chapitre pour nous démontrer ce dont nous avons parlé plus haut. Je commencerai par la fin du chapitre et ensuite nous reviendrons en arrière. Nous allons travailler à partir du personnage le moins reconnu jusqu'à celui qui est le plus reconnu quand il s'agit des exemples à suivre. Le premier exemple que je voudrais montrer, c'est Épaphrodite. Dans le verset 25 à 30, nous rencontrons un homme qui se donnait à fond dans le service. Il n'y a pas de demi-service pour lui. Il est prêt de se rendre au point de risquer sa vie pour les Philippiens. Le verset 30. À partir de verset 25, il nous est présenté comme un camarade ou un collègue qui avait de l'attachement pour les Philippiens et il ne voulait surtout pas être un fardeau pour eux. C'est souvent eux, c'est toujours eux, c'est pas moi. Paul met en lumière le fait que même si vous n'êtes pas prêt à prendre Christ, ah Christ, ah oui, il est notre exemple, mais on va jamais être comme Christ. Peut-être Timothée. Ah, mais Timothée, il est deuxième. Ou lui-même, Paul. Paul, il est apôtre. On ne va jamais être comme Paul. Essayez de suivre un inconnu. Quelqu'un qui est l'un de nous, Épaphrodite. Personne ne le connaît. Épaphrodite. Quelqu'un de la communauté qui est prêt à mourir au service des autres. Un de nous, pas le pasteur, pas les anciens, un de nous, il est prêt à mourir pour ses camarades. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? C'est ça la barre pour nous. Le deuxième exemple, c'est celui de Timothée. Nous avons plus d'informations sur lui dans l'histoire et aussi par les lettres écrites. Au verset 19 et 23, nous avons un récit de son sujet et au sujet de son service. Les phrases sont courtes, mais sont truffées de petites révélations. Paul dit au verset 20 qu'il n'a personne comme Timothée. Il est préoccupé par le bien-être des Philippiens. Il n'est pas seulement concerné, mais il est véritablement préoccupé. C'est pas seulement concerné, il est préoccupé de. Grâce à ces quelques versets, nous pouvons repérer une idée de ce qui est important quand il s'agit d'avoir une préoccupation réelle pour nos frères et sœurs en Christ. La véritable préoccupation, le vrai service tourne autour de la question de comment mettre en œuvre les vérités de l'Évangile dans la vie de ceux et celles avec qui nous sommes liés et de ceux et celles que nous servons. C'est ça la question. C'est ça le but, de rentrer dans la vie des autres, pas seulement pour dire « Ah, je suis dedans ». C'est pas ça. Bien sûr, être présent, c'est le premier pas. Être présent dans la souffrance des autres, c'est le premier pas. Mais le deuxième, c'est de rentrer avec l'espoir, rentrer avec l'espérance. Et la seule espérance qui compte, c'est quoi? L'Évangile. Le simple fait d'être gentil ne respecte pas ce qui nous incombe de faire ici. On peut tous être très, très gentils. Il est gentil. Oh, il est gentil. Oh, il est gentil. Parce que c'est le but d'être gentil. Un serviteur de Christ reflète Christ. C'est ça. Notre maître. L'Évangile, c'est ça. Dans toute la situation de la vie. Le troisième exemple de celui de Paul, nous avons déjà travaillé à travers les versets où Paul est vu comme un exemple à suivre. Je ne vais pas en dire beaucoup plus à ce stade, mais j'aimerais bien ajouter à travers tout ce qu'il a écrit et en particulier à travers le livre d'Actes des apôtres, Paul se révèle comme un homme qui a vécu une vie d'abandon complet de son être pour la cause de Christ et un travail permanent à se sacrifier pour les autres. C'est ça, c'est ça. On voit Paul et on dit, mais c'est loin, 2000 ans, c'est dans la parole sacrée. Maintenant, j'aimerais venir à la partie de l'Écriture que nous connaissons tous comme étant le meilleur exemple de ce qu'il est d'être au service des autres, celle de Jésus-Christ. Permettez-moi de lire le texte pour vous à partir de verset 5 dans le chapitre 2. Que votre attitude, nous, soit indiquée à celle de indique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à persévéré, mais il s'est déployé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable au très être humain, reconnu comme un simple homme. C'est ça. Il est venu, il est rentré dans nos souffrances. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Pour nous, il a pensé à nous, pas à lui-même, à nous. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La réalité est que pour nous, ici dans la salle, pour nous, Dieu l'a fait pécher, lui qui n'a pas connu le péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il a souffert pour nous, pour qu'on puisse avoir l'espérance, la joie éternelle. C'est ça. C'est notre choix à nous maintenant. De faire la même chose, de rentrer dans la souffrance des autres comme serviteur des autres pour dire il y a une espérance, il y a quelque chose au-delà de notre existence ici sur terre. Il y a une espérance qui est éternelle. C'est ça. Ce qui devrait nous décrire ici dans la salle. La question au début, est-ce que les personnes qui vous entourent vous connaissent comme serviteurs, ceux qui vont au plus loin de donner espérance dans leur souffrance. Oh, que nous-mêmes puissions commencer à saisir l'immensité de tout ce que Christ a accompli dans son incarnation, sa venue sur terre. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour quoi? Pour servir. C'est énorme, cette phrase-là. Dieu, le Tout-Puissant, n'est pas venu pour nous servir, pour être servi, mais pour servir. C'était son choix à lui, volontairement. Et c'est notre choix à nous, volontairement, de rentrer dans la souffrance des autres en tant que serviteur qui donne l'espérance. Est-ce qu'on a l'espérance déjà? La réalité, c'est que tout ce que Christ offre à titre d'exemple est au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer accomplir. J'espère que vous avez trouvé l'image jusqu'à ce point-là. Je ne sais pas quoi dire en ce moment, parce que c'est un texte qui m'a travaillé au profond d'une façon qui m'a bouleversé, ce texte. Parce que je me vois comme, ah oui, je suis assez bien, j'ai fait le pas entre les États-Unis pour venir ici en France. Ah oui, bon serviteur. Mais quand je vois ce que la Bible nous indique à faire, je suis si loin de ce que ça veut dire être serviteur de Christ. Tout ce que j'ai mis en relief jusqu'à présent, c'était de nous faire prendre conscience que nous sommes tout à fait insuffisants, tout à fait incapables de servir de la manière dont Dieu l'exige de nous. On est incapables. Est-ce qu'on est prêt à dire à nous-mêmes, je suis incapable de servir? Bien. C'est une bonne espérance pour nous ce matin. Hein? On est incapable de servir. Si vous avez l'impression que vous faites assez bien votre dû dans le domaine de service, détrompez-vous. Nul n'est capable. Finalement, et c'est ça où j'espère, je prie que Dieu nous touche tous ce matin, parce que c'est ce qui m'a touché le plus profondément, c'est le point qui arrive, la fin ici. Finalement, permettez-moi de souligner la solution. Parce qu'on veut, être le serviteur qui fait ça, qui se sacrifie pour l'autre. N'est-ce pas? C'est ça. On voit dans la Bible ce qui peut être là et on le veut. Mais comment y arriver? C'est ça la question pour nous ce matin. Comment y arriver? J'espère que vous n'avez pas encore oublié le petit exercice d'écriture que je vous avais fait faire au début de service. J'aimerais vous savoir quels sont les noms que vous avez écrits par rapport au nom de Dieu. Petit sondage maintenant. On peut voir qui a écrit Trinité, Dieu. Il n'y a pas la honte ici. Jésus, glorieux. Quoi d'autre, peut-être? Éternel. Quoi? Tout-puissant. Seigneur. Quoi d'autre? Hein? Saint. Quoi d'autre? Bien. Tout ça est juste. C'est juste. Mais c'est hallucinant parce que c'est la même chose partout dans chaque sondage. Qui a écrit le nom Père? Un, deux, trois, peut-être, quatre. C'est pas de dire, ah, mais c'est, les autres ne sont pas justes. C'est seulement pour dire que c'est quelque chose qui est très, très important dans la service. C'est notre identité. Qui nous sommes? Retournons à notre exemple du Christ dans le Philippien. Ce principe se situe là où mon monde a été bouleversé et où je prie que votre monde entier soit aussi tourné dans le bon sens. Ce que Christ a fait pour nous, en sacrifiant sa vie, était dans le cadre d'une relation éternelle, sécurisée, incassable avec le Père. La relation du Christ avec le Père a été sûre et éternelle. Avant son incarnation, il était au cours de son incarnation et après son incarnation. Tout au long, il a été et il restera le Fils de Dieu. C'est à cause de la joie qui lui était réservée qu'il a souffert la croix. Est-ce que vous voyez le lien où je veux en venir? Et comment cela nous concerne ici dans la salle? Nous n'allons jamais autant servir que lorsqu'on est sûr de notre relation éternelle avec Dieu. Vivre quoi? L'Évangile. C'est ça qui fait la différence. C'est quoi la vie éternelle? De me connaître, de connaître Dieu le Tout-Puissant et ce qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Le vrai service, celui qui change tout, n'est pas un devoir, il est fruit de la relation réelle et intime avec le Père. C'est ça. On a parlé de service tout au long de ce message, mais c'est pas ça le but ici, de dire « Ah, mais c'est nécessaire de se discipliner en plus, de service en plus, de servir en plus. » C'est pas ça le but ici. Jean 1, verset 12 nous dit que nous avons reçu quoi? Le droit de devenir quoi? Enfant de Dieu. Lorsque Christ a enseigné à prier, comment nous a-t-il dit de nous adresser à Dieu? Notre Père. Notre Père. Oui, c'est bien de servir quelqu'un qui est saint, qui est majestueux, qui est glorieux, c'est clair, parce que, mais ça éloigne l'intimité. Ça éloigne la possibilité d'être sûr de nous-mêmes, notre identité. C'est ça qui va nous pousser à servir les autres. Que je suis fils de Dieu. Il m'a racheté pour être fils de Dieu. Je suis son enfant. Romains 8, où nous étions auparavant, nous dit que vous avez reçu un esprit d'adoption en tant que fils et que c'est ainsi que nous pourrions crier quoi? Abba, Père. C'est le cas pour nous ce matin? Est-ce qu'on crie, oh Abba, Père? Je suis content que je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé, que la vie est seulement un souffle, que finalement je suis. Et c'est ça qui va nous pousser à servir, de risquer pour les autres. Parce qu'on est clair que l'avenir pour nous, c'est éternel. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes, quoi, enfants de Dieu. Et si les enfants et donc héritiers, les héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Le but de la matinée était de rechercher le sens et la motivation profonde pour le service. Nous avons mis l'accent principalement sur la signification du service et nous ne sommes pas trop attardés sur la motivation, mais ce qui devait être clair, c'est que la relation entre votre service aux autres est profondément liée avec votre identité. Si vous n'êtes pas sûr de vous-même en tant qu'enfant de Dieu, vous n'allez jamais, jamais au service des autres. Jamais. Oh oui, on va faire des petites choses pour montrer qu'on est gentil. Mais risquer la vie comme Paul et Timothée et Épaphrodite et Jésus, on ne va jamais y arriver si c'est seulement de nous protéger. Parce que c'est ça la vie pour nous qui est hors de Christ. On se protège parce que c'est d'avoir une vie confortable, une vie à l'aise. Parce que je ne veux pas être embêté. Mais si je sais clairement que ma vie en Christ m'amène vers une vie qui est une espérance, qui va une joie, qui va durer à l'éternité, mais c'est fou pour nous qui ont le centime, qui ont devant nous des milliards de dollars et on ne veut pas échanger. Si votre identité en Christ est sûre et incontournable, cela va être vu par le fruit de service que vous allez rendre et la manière dont vous le ferez. Si votre service est faible, incohérent, dispersé, la seule façon durable de la changer pour la gloire de Dieu, c'est de vous laisser submerger par la gloire de l'Évangile à travers le visage de Christ, de connaître Dieu davantage, de vous abandonner à lui. Et c'est quelque chose qui ne vient pas simplement, c'est une discipline. Vous voyez maintenant ce que Paul est prêt à faire dans le chapitre 3. Il va tout abandonner pour connaître Jésus-Christ. C'est ça le but ici. Ce n'est pas de servir mieux, parce que ça va venir. Le but pour moi, pour vous, pour nous tous, c'est de connaître Jésus-Christ davantage. Parce qu'on va être changé par lui, par son esprit, parce que le fruit va venir, le service va venir. C'est pas de faire un avant l'autre. C'est ça. Le fruit d'arbre, ça vient après, en saison. Pour lui, pour Paul, c'est vivre, c'est Christ. Que cela sera le cas pour nous ce matin. Prions. Ô Seigneur, notre Père céleste, merci encore pour ta parole. Qui éclaire pour nous ce que ça veut dire être des serviteurs, des esclaves de toi. Seigneur, Hébreu nous indique qu'on est enveloppé par le péché. On a une tendance d'être submergé par la chair et les choix de tous les jours et on évite ce qui est le plus important, de te connaître. Ô Père, pardonne-nous. Aide-nous à voir, à travers ce qu'on a entendu ce matin de ta parole, de faire autrement cette semaine. Pas de rendre service en plus, mais de te connaître en plus. D'être sûr de qui tu es. Le souverain, sauveur, le Seigneur qui a une relation éternelle avec le Père. Ô Seigneur, aide-nous à voir ça pour nous-mêmes. Genève est une grande ville, Seigneur, et on veut faire une différence ici. On va se mettre dans une situation où on peut souffrir avec ceux qui nous entourent pour vraiment donner espérance qui est au-delà de la vie terrestre. Ô Dieu, aide-nous de voir que l'espérance est vraiment en toi. Oh, je prie pour ta gloire et aussi pour le bénéfice de cette Église, en ton nom et pour ta gloire. Amen.